bonsoir à tous qui nous rejoignent aujourd'hui. Vous pouvez entendre les deux autres messages. Donc, cette série s'appelle « Entrer dans les bénédictions de Dieu ». Ils sont sur notre site victoire.cc ou sur enseignement.com aussi. Et aujourd'hui, je vais très fortement dans mon esprit de vous parler de la loi, de la semence et de la moisson. D'accord? Donc, on va voir notre verset principal qui est « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. C'est Galates 6, 7, d'accord? Donc, je veux que vraiment on s'accroche à ce verset. Amen? D'accord? Je le répète, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et je sais, certains avaient déjà leur Bible en main, voulaient faire notre bande déclaration. Donc, vous avez votre Bible? Est-ce que vous voulez le lever? Oui, secouer un petit peu, fait plaisir au Seigneur, et comme Laura nous a déjà dit, on va faire peur au diable. Tu vois, il n'a pas peur du chrétien qui reste à la maison, il n'a pas peur du chrétien qui a la Bible sur l'étagère, mais il a peur du chrétien qui met cette parole dans leur cœur et commence à mettre cette parole en pratique dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on peut marcher dans les traces de Jésus. Amen. Et gloire à Dieu. Vous voulez dire avec moi? Répète après moi. Voici ma Bible. La foi vient de ce que j'entends. Et je décide d'entendre la parole de Dieu. Je donne libre cours à l'Esprit de Dieu. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je demande à Dieu de me remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Je ne suis pas un auditeur oublieux, mais je mets la parole en pratique et je suis heureux dans mon activité. Je crois que je reçois au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Il n'y a pas mieux de se préparer avant qu'on lit la parole, avant qu'on reçoit de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous avons déjà vu certaines choses. Je ne vais pas prendre le temps pour faire un résumé, sinon ça va prendre trop de temps et nous ne voulons pas ça. Mais les versets qu'on a déjà vus, des versets clés, c'était d'abord Ésaïe 1, 19, qui dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Comprends ceci, quand Dieu met quelque chose dans sa parole, ce n'est pas pour remplir le livre, c'est parce que c'est sa volonté. Alors quelqu'un dit, mais comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? Lis sa parole, lis ses testaments, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, oui, c'est sa volonté pour nous, d'accord? Deuxième verset qu'on a vu, ça la semaine passée, c'est Proverbes 10, 22. Et j'espère que vous êtes en train de méditer ces versets. J'espère que ces versets vont devenir partie intégrante de votre être. Vous savez, j'ai vu une femme, on était en Suisse cette semaine passée, on était avec notre fils, on est allé le voir, on a fait d'autres réunions aussi, et nous étions au restaurant avec notre fils, et il y avait une femme en face de nous, mais j'ai rarement vu quelqu'un aussi maigre de ma vie. Et j'ai entendu la femme en face de elle parler avec une autre dame en disant, ils ont enlevé grand intestin, et maintenant tout ce qui se passe, c'est que la nourriture passe. Il n'y a aucune assimilation, ouais, de nourriture, parce que évidemment on l'a vu, on a dit peut-être elle est anorexique, une maladie absolument affreuse, n'est-ce pas, ouais. Mais non, elle ne plus assimiler rien, elle mangeait un repas normal, et comme j'ai jamais vu, je pense que je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un aussi mince. Et vous savez, nous pouvons faire pareil. Nous pouvons lire la parole, mais si nous n'assimilons pas la parole de Dieu, si nous ne disons pas « ça, c'est la promesse de Dieu pour moi », ça ne va avoir aucun effet dans notre vie. Et combien c'est triste de voir des chrétiens qui vivent comme des non-chrétiens, qui ne laissent aucun changement dans leur vie. Il faut que nous soyons différents, n'est-ce pas? Oui? Si nous avons été véritablement sauvés, si Jésus est le Seigneur de notre vie, le monde, la famille, les voisins, les collègues du travail devraient voir une véritable différence. Et la seule façon que je sais que Dieu a pu faire une différence dans ma vie, c'est parce que j'ai lu et j'ai appliqué cette parole. Mais il fallait l'assimiler. Et une chose que j'ai trouvée formidable pour l'assimiler, c'est de me citer la parole, de le dire et de le méditer jusqu'à ce que je me dise, ça c'est à moi. Proverbes 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se suivent d'aucun chagrin. Il y a encore quelque part, on a mélangé plein de choses et on croit que le diable peut bénir et Dieu peut maudire. Où est-ce que vous avez trouvé cela? Les malédictions font mal, les bénédictions font du bien. Et Dieu a commencé avec, ouais, de bénir l'homme qu'il avait créé. Amen. Donc nous allons voir trois choses, je vais les dire vite et après on va continuer. On a vu trois choses qu'il faut savoir. Nous allons dire, ouais, que un, c'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas lu la Bible, et je vous encourage à recommencer. D'accord? Deuxième chose, oui, il faut savoir comment recevoir les bénédictions de Dieu dans votre vie. Et nous avons souligné l'importance de notre attitude et notre obéissance. Amen? Tout le monde dit attitude? Et vous savez, je sais parce que j'ai eu besoin de le faire. Nous pouvons changer notre attitude dans un clin d'œil. Quand nous décidons, vous pouvez avoir une mauvaise attitude aujourd'hui. Peut-être vous avez, je sais pas, vous avez renversé la voiture, vous avez tapé un mur en arrivant, vous avez marché sur le chat. Je sais pas ce que vous auriez pu faire. Peut-être vous avez eu des paroles avec votre conjoint ou avec vos enfants et vous êtes comme ça. Et vous savez, dans un clin d'œil, si vous décidez, vous pouvez dire, je vais recevoir de Dieu. Je vais être une bénédiction. Amen. Peut-être au travail, les choses vont de mal en pire. Tu peux décider. Aujourd'hui, oui, je vais être une bénédiction dans ce lieu de travail. Je décide de changer mon attitude. Troisième chose, nous avons dit qu'il faut partager les bénédictions si nous voulons davantage. Amen. Il faut décider d'être une source de bénédiction. Et la meilleure façon que faire une réalité de les promesses de Dieu, c'est commencer à les déclarer. Quand vous êtes toute seule, arrêtez de dire « je suis nul, je ne peux rien faire, je suis... » On a tous raconté ces choses. Vous commencez à dire « je suis une source de bénédiction. » Amen. Commencez à dire, si vous croyez que Jésus-Christ habite dans votre cœur, ça fait de vous, ouais, une source de bénédiction dans ce monde. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Donc, j'ai dit, je pense que c'était la semaine passée, oui, que nous trouvons trois fois dans la Bible où il dit « ne vous y trompez pas ». Oui, mais cette semaine, j'ai trouvé une quatrième. Est-ce que quelqu'un cherchait? Non? Oh, je vous ai lancé un défi. J'ai dit « mais cherchez où il dit « ne vous y trompez pas ». D'accord? Donc, nous avons vu déjà Jacques 1, 16 et 17. Il dit « ne vous y trompez pas ». Et si la Bible dit « ne vous y trompez pas », ça veut dire que les gens étaient en train de se tromper. Allô? Et nous savons que la Bible n'est pas un livre, comme certains disent, qui a été écrit à une époque, pour une certaine société, pour une certaine façon. C'était écrit à l'homme du Créateur pour nous expliquer comment vivre dans la bénédiction. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quelqu'un se rappelle? Malachie 3.6, on a vu ça? Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne... Oh, bravo. Bravo, ça c'est important, n'est-ce pas? Parce que certains nous donnent l'impression que Dieu est schizophrène. Un jour il dit une chose, l'autre jour il dit le contraire. Non, mais c'est vrai, on a mis nos attributs humains sur Dieu. Au lieu de prendre de Dieu sur nous et devenir fidèle et intègre et honnête, nous avons mis sur lui nos problèmes. On entend les gens dire. Dieu m'a dit, les gens annoncent, Dieu m'a dit, et deux jours plus tard, il dit, et Dieu m'a dit, et c'est le contraire. Il dit, il y a un problème là. C'est pas possible. Et surtout qu'on voit que ça contredit la parole de Dieu. Amen. Comprends ceci. Savoir ce livre est très important parce que Dieu ne va jamais vous dire quelque chose qui contredise sa parole. Jamais. Même quand il vous dit quelque chose qui semble un petit peu bizarre. Comme quitter ton pays, quitter ta famille, va t'installer en France. Oui? Peut-être pour vous, c'est pas bizarre, mais pour nous, c'est bizarre. Mais on a vu, il a fait ça avec Abraham. Il a fait ça avec d'autres. Amen. Et ce qui est remarquable, quand vous apprenez à marcher avec Dieu, obéir à Dieu, ce que vous trouvez, c'est que la bénédiction vous suit. Les gens nous demandent souvent, mais comment c'est possible que vous vivez tellement bien et vous êtes bénis? Et on dit une chose qu'on sait, c'est qu'on veille sur notre attitude et nous essayons d'être obéissants à la voix de l'Éternel dans sa parole et dans notre cœur. Ok? Ne vous y trompez pas. D'accord? Les bénédictions viennent d'en haut, les malédictions viennent d'en bas. Ok? Vous voulez un autre? Ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 6, 9, c'est celui que je n'avais pas trouvé, j'ai trouvé ça cette semaine. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ok, ce n'est pas ma pensée ici, ce n'est pas ce que John Madden pense, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et vous dites, mais évidemment! Non, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent enseigner une sorte de grâce qui permet n'importe quoi. Je suis désolé, vous ne pouvez pas vivre comme le diable toute la semaine et attendre les bénédictions de Dieu dimanche. Oui, c'est extraordinaire comment ça devient silencieux, n'est-ce pas, dans l'église, quand on parle clairement. J'ai entendu cette parole l'autre jour. Vous savez, Laure et moi, on est toujours en train d'apprendre. On lit les livres, on écoute des messages, on va dans les conférences parce qu'on sait qu'il faut avancer. Le jour que vous arrêtez d'apprendre quelque chose, vous êtes mort. Vous êtes tout le temps en train d'apprendre, n'est-ce pas? J'ai entendu si, et ça travaille dans mon cœur, dit la correction apporte la protection, la direction et la perfection. Et ça me travaille, parce que qui aime la correction? On n'aime pas, n'est-ce pas? Mais qui aime la protection? Qui aime la direction? Qui veut la perfection? Amen. Donc il faut qu'on accepte la correction du Seigneur. Amen. Et nous ne pouvons pas marcher n'importe comment dans la vie et attendre les bénédictions de Dieu. C'est vraiment dommage. Mais on voit les gens qui ne laissent pas l'Esprit de Dieu changer leur vie et ils sont toujours là, prie pour ma famille, je veux que ma famille soit sauvée, mais ils vivent comme le diable. Je suis désolé, mais votre famille vous voit, vous. S'ils viennent chez moi, je vous promets, ils vont voir quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'établir notre vie, notre famille, notre façon de parler entre nous, de vivre entre nous, oui, selon la parole de Dieu. Et vous pouvez faire pareil. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Nous avons le même Jésus. Vous êtes d'accord? Nous avons le même Saint-Esprit. On n'a pas deux. Nous avons la même parole. D'accord? Il y en a un autre. Ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous avez déjà entendu ce verset, n'est-ce pas? C'est extraordinaire parce que ce verset se trouve au plein milieu d'un chapitre qui parle de la résurrection. Et il dit quoi? Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Donc, est-ce qu'il est en train de parler des non-chrétiens là? Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais moi j'ai aucun ami qui n'est pas chrétien. C'est bizarre parce que Jésus avait des amis qui étaient non-chrétiens. Oui. Il était même reconnu, oui, pour être ami des buveurs de vin et des pêcheurs notoires. Je vous donne le référent, c'est Matthieu 11, 19. Oui. Jean était critiqué parce qu'il ne buvait pas et qu'il ne mangeait pas, il ne faisait pas la fête. Et Jésus est venu et il était critiqué parce qu'il buvait et qu'il était avec ces gens. Mais il n'était pas avec eux pour entrer dans leur péché. Ils étaient avec eux pour leur sortir de leur péché. Amen. Donc quand il dit « le mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs », moi je dis « faites attention de ceux qui sont toujours en train de mettre en question la parole de Dieu. » Oui, je sais que la Bible dit « mais ». Nous avons eu beaucoup de gens comme ça qui nous aimaient. Mais vous prenez la parole trop littéralement. Vous êtes ce qu'on appelle des fondamentalistes. Oui, vous croyez que Dieu a voulu dire ce qu'il a dit. Peut-être je ne suis pas assez compliqué pour vous. Peut-être je suis naïf. Je crois, j'ai cru ça avec mes parents. Quand mon papa a dit c'était non, et quand il a dit oui, c'était oui, et quand ma maman a dit non, je savais que derrière, il y a papa qui a dit non aussi. Hein? Et j'ai appris que Dieu est pareil. S'il ne voulait pas quelque chose dans ma vie, il ne m'aurait pas promis. Mais s'il a promis quelque chose dans ma vie, c'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour cette église, et je crois, peu importe, écoutez-moi bien, où vous habitez sur la planète Terre, si vous croyez les promesses de Dieu, ces promesses peuvent devenir réalité dans votre vie. Je suis désolé, mais il y a des gens qui sont en train de dire que certaines promesses sont pour nous, oui, qui vivent dans l'Occident, mais on ne peut pas avoir ça si nous disons en Occident. Nous ne pouvons pas croire ces choses si nous sommes dans un de ces pays, on appelait ça des pays du tiers-monde. On n'a plus le droit de dire ça. Maintenant, c'est en voie de développement. Sauf que on ne croit pas qu'il peut se développer. Oui. Moi, je dis, avec la parole de Dieu, nous pouvons tous sortir de notre misère. spirituel, matériel, physique, spirituellement lié par les choses, vous pouvez en sortir avec les promesses de Dieu. Mais il faut s'accrocher de Dieu et il faut, écoutez-moi bien, il faut que vous vous éloigniez de ces gens qui toujours mettent cela en question. Sinon, ouais, nous avons enterré les gens parce que les autres leur ont convaincu que c'était la volonté de Dieu qui meurt. Même des gens qui refusaient d'aller à l'hôpital, aller voir les médecins. Les médecins auraient pu leur sauver, mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelle tristesse. Ok, ça fait 3. Quatrième, c'est notre verset d'aujourd'hui. Pour entrer dans les bénédictions de Dieu, écoutez bien, Galates 6, 7. Vous connaissez ce verset? J'espère à la fin d'aujourd'hui, vous allez le connaître, vous allez commencer à méditer, vous allez mettre ça en pratique parce que savoir, c'est une chose. Mais mettre en pratique, faire la parole, c'est ce qui fait vraiment la différence. Quelqu'un dit vive la différence. Oh, hallelujah, oui. On vit en époque un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que les hommes veulent être des femmes veulent être les hommes, et il y a un mélange de tout. Mais j'étais en train, vous savez, j'ai plusieurs patients. Ouais, après ma femme, quand il est... Ouais. Il y a Dieu d'abord, après ma femme et mes enfants, ma famille. Ouais, j'aime beaucoup l'athlétisme, d'accord? Donc, je suis pas très foot. Désolé les hommes qui aiment le foot. Je suis plutôt rugby que foot, mais j'aime beaucoup l'athlétisme. J'étais en train de dire à Laura, mais n'est-ce pas bizarre que les femmes ne courent pas contre les hommes? Ils ne sautent pas contre les hommes? Ouais, ils ne jouent pas contre les hommes en sport, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que physiquement, il y a une véritable différence, n'est-ce pas? Je vous laisse ça réfléchir. Non, il y avait un Américain anglais qui ont sauté 2,33 m. Donc ça fait 2,60 m. Donc 2,33 m, c'est là. Oui, à Monaco, donc vendredi soir, 2,33 m. Oui. Les filles étaient en train de sauter. Donc s'ils sautent 2 m, 2,2 m, 3, ils vont très bien. Je pense record du monde pour les femmes, c'est 2,10 m. Record du monde des hommes, c'est 2,48 m. Si je me trompe pas. Oui? Et les femmes sont ravies s'ils courent 100 mètres en 11 secondes ou moins. Mais les hommes qui courent 100 mètres en 11 secondes, ils sont encore à l'école. Oui? Et j'ai vu un Anglais dans le champion du monde junior, oui, qui a couru en 10.05. Il a 18 ans. Maintenant, il va être aux Olympiques. Hallelujah. Je prends mes vacances cette année, comme ça vous savez comment j'aime. Je prends mes vacances exprès au plein milieu des Olympiques. Comme ça, j'ai pas besoin d'être culpabilisé ou condamné. Je m'arrêterai et je regarderai, tu vois. Je sortirai ma femme manger à midi, passer l'après-midi avec elle parce qu'il n'y a rien pendant l'après-midi. Et après, je remettrai le soir. Hallelujah. Oui, gloire à Dieu. Maintenant, vous savez tout sur moi, n'est-ce pas? Vous le croyez au moins. Galates 6, 7. Hein? Pourquoi je partage ça avec vous? Parce que certaines personnes sont bornées. Et ils croient que des hommes spirituels ne s'intéressent à rien d'autre. Moi, j'aime bien manger. J'aime le sport. J'aime la musique. J'aime beaucoup de choses. Dieu nous a donné cette vie. Et que c'est bon d'être passionné de la vie. Hein? Jamais vous allez gagner les gens si vous pensez que de Dieu et de Jésus et vous n'avez pas d'autres pensées dans votre tête. Je suis désolé, mais ils vont vous dire, vous êtes bizarre. Et moi, je dis, ils ont raison. Vous êtes bizarres. Oui? Mais nous pouvons vivre toutes ces choses à la gloire de Dieu. Amen? Ok. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il y a une loi qui régit la terre. Oui? Autant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Ne dites pas à un fermier qu'il puisse récolter s'il n'a pas semé. Nous étions dans le nord de l'Allemagne deux fois cette année en train de semer sur la famille. Un temps formidable. Ils appellent cet endroit, c'est donc juste en dessus de la mer Baltique, oui, ils appellent ça le paradis. Oui, et notre ami est fermier là-bas. Il a dit son père, des années passées, a quitté le sud de l'Allemagne où il y avait une ferme, a fait 400 km au nord pour acheter une ferme là. Et là, il produit en moyenne 1,5 à 2 fois plus de récolte, ouais, par hectare, ouais, c'est absolument phénoménal, ouais. Les gens ne croient pas, mais c'est quelque chose avec le système climatique et la mer et tout ça, mais c'est formidable. Ils appellent ça, ouais, le monde appelle ça le paradis. Pas mal, n'est-ce pas? Mais mon ami fermier sait très bien. Il a 200 hectares. S'il ne sème rien, qu'est-ce qu'ils auraient? Absolument pas. Il n'y aura pas rien. Vous avez jamais fait un jardin? Qui a un jardin ici? Est-ce que quelqu'un a un jardin? Vous savez, vous laissez ce jardin à lui-même, qu'est-ce qu'il arrive? Des mauvaises herbes, toutes seules, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de les cultiver. Je vous promets, en peu de temps, ils vont envahir tout votre jardin. Si vous voulez une récolte, il faut... Oui, et vous décidez ce que vous semez, n'est-ce pas? Et peut-être certains pensent que je n'ai pas mangé mon petit déjeuner ce matin. Mais vous savez, si vous voulez des bananes, il ne faut pas semer des pommes. Genèse, chapitre 8, verset 22. Il y a une loi qui régit ce monde. On peut dire, je ne crois pas dans la loi de la gravité. Je vais sauter d'ici et je vais monter parce que je ne crois pas. Vous êtes prêts? Qui croit avec moi? La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il lui sera accordé. Qui croit que je vais monter en sautant? Oui? 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 Regarde. Oui, c'est bon. Non. La loi de la gravité, oui, est toujours là, n'est-ce pas? Si je veux, oui, supprimer la loi de la gravité, ce que font les avions, il faut que je mette une autre loi, oui, en place pour le supprimer, n'est-ce pas? Mais la loi de la semence et la moisson existe toujours. Et même cet avion qui part, oui, et qui monte, il va descendre à un moment ou autre. Espérons qu'il va descendre quand le pilote le veut. Quelqu'un dit, mais j'ai peur des avions, peut-être c'est mon temps de partir. Il dit, non, c'est pas ton temps. Oui, mais peut-être c'est le temps du pilote de partir. Non, je pense pas. Ok, la loi de la semence, on peut dire sémail et moisson, mais je pense que ça sonne mieux, n'est-ce pas? La semence et la moisson, ça va pour vous? Oui, c'est Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est là où on habite? Oui? Froid et chaleur, vous allez au nord de la France, vous avez le froid, vous descendez en sud, vous avez la chaleur, n'est-ce pas? L'été et l'hiver, il est été ici, mais vous allez dans vers le pôle sud, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver là-bas, n'est-ce pas? On a eu une nuit, on va avoir une autre nuit, on a des jours, ça continue, n'est-ce pas? Et on ne met pas ces questions en question, mais quelque part, on dit, ce n'est pas ma responsabilité. Si Dieu veut me bénir, il va le faire. Et Dieu a décidé de nous bénir ici en France, mais il a décidé, dans d'autres pays, de ne pas bénir le peuple. J'ai entendu les gens dire cela. Je dis, mais d'où est-ce que vous sortez cela? Dieu veut que toute la planète soit bénie. C'était sa volonté dès le commencement de bénir. Adam et Ève auraient dû prendre le jardin d'Éden et l'emmener à travers le monde. Mais au lieu, ils ont décidé de désobéir. Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose que lui, il ne fait pas. Jean 3,16, vous le connaissez, sinon c'est ici au-dessus de ma tête. C'est notre verset pour cette année. Ouais. Vous avez dit à quelqu'un cette semaine, vous êtes la prunelle de ses yeux? Tournez vers votre voisin, dites, vous êtes la prunelle de ses yeux. Je sais qu'on nous a appris que planète Terre n'est pas le centre de l'univers, mais l'homme est le centre d'intérêt de Dieu. Et nous sommes la prunelle de ses yeux. Il est concerné pour vous. Il désire votre bien-être. Amen. Et je sais que c'est difficile pour nous parce que nous avons des petites familles. Mais quelqu'un qui a une famille, Laura est l'aînée de 7. Ses parents n'aimaient pas Laura pas plus que les autres, ses trois frères ou ses trois sœurs. Oui, et ceux qui ont des familles encore plus grandes, oui, ils n'aiment pas un enfant moins ou plus qu'un autre, ils aiment tous ses enfants. Et Dieu, il aime tous les êtres sur la planète. Et il veut qu'ils deviennent ses enfants. Non, nous ne sommes pas automatiquement les enfants de Dieu. Nous avons besoin de naître de nouveau. Amen. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné une semence. Il a donné son fils. Pourquoi? Parce qu'il voulait beaucoup de fils. Et il désire avoir beaucoup de fils. Quelqu'un dit, mais pourquoi Jésus ne revient pas? Toutes les prophéties qui ont été données ont été accomplies. Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il attend une moisson. Amen. Il attend pour davantage des gens de tourner vers lui et après il va venir. Et c'est notre travail d'annoncer Jésus, de témoigner la bonté de Dieu, de prier, n'est-ce pas? Et de vivre devant ces gens. Amen. Jean 12, 24. Il y a quelque chose qui est propre d'une semence. En Jean 12, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la loi de la semence et de la moisson. Les jeunes, vous voulez réussir votre scolarité? Vous voulez réussir votre examen? Vous savez, il faut semer quelque chose. Oui, oui, il faut travailler. Amen. Pourquoi les gens sont étonnés quand certains réussissent et d'autres ne réussissent pas? Si on ne se met pas à l'œuvre, oui, on n'a pas notre salaire. Amen. Et il faut qu'on apprenne, oui, à donner. Et la semence qu'on donne doit mourir. Et ça, c'est difficile pour nous, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que quelque chose peut sortir de quelque chose qui est mort? Mais Jésus est venu mourir pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Alors bien, tenez ça pour moi. Peut-être vous l'avez déjà vu. Ça s'appelle une pomme. Il est jeune. Tu tiens le micro, d'accord? Sinon, on ne terminera pas. Mais on m'a dit une fois que nous pouvons compter les nombres de pépins. Peter, viens, j'ai besoin d'aide. On peut compter les nombres de pépins dans une pomme. Voilà. Voilà, tu peux regarder combien il y en a là. Il y en a au moins trois, d'accord. Et là? On va les sortir. Attends, viens par ici.
C'est le grand scientifique, n'est-ce pas?
Voilà, on a un, deux... Donc, c'est du live ici, d'accord? Voilà, je n'ai pas coupé avant pour voir combien il y avait et après remis ensemble avec du superglue 3. Voilà. Parce que dans chaque fruit, dans chaque chose, dans chaque bénédiction que Dieu nous donne, oui, il y a de quoi manger.
Tu as raté une.
Tu veux dire si je peux manger ça? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon frère. Et les gens sont toujours étonnés que nous sommes du même père et du même mère. Oui? Et nous disons toujours, s'ils mettent en question ça, nous disons, nous sommes des jumeaux. Identiques. Donc là, dans chaque fruit, dans chaque chose qu'on reçoit de Dieu, il y a quelque chose à manger.
Pendant qu'ils mangent.
Peter, tu ramasses, tu comptes? Là, donc on peut compter. Merci Laura. On peut compter le nombre des pépins dans une pomme, n'est-ce pas? On va voir le compte dans l'instant, je suis étonné.
Il y en a 12.
Il y a 12. Est-ce que quelqu'un veut vérifier? Non, je ne fais pas un tour de ma liste. Mais pourquoi tu fais ça, John? Parce qu'on dit... C'était bon. Je crois que je n'ai jamais mangé pendant une prédication. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Maintenant, ça se fait. Quelqu'un veut un bout?
C'est dommage, est-ce que quelqu'un a faim là? Je suis sérieux.
Je viens alors.
Viens. Voilà.
Merci.
Quelqu'un autre veut un bout? Ok. Donc, on peut... C'est bon celui-là. On peut compter le nombre de pépins dans une pomme. Vous êtes d'accord? On a 12 là, je suis étonné. Normalement, il n'y a pas autant que ça. Et dans chaque chose que Dieu nous donne, chaque bénédiction, il y a, oui, quelque chose à manger pour nous et quelque chose à semer. Tout le monde dit semer. D'accord? Et on dit qu'on peut compter le nombre de pépins dans une pomme, mais nous ne pouvons pas compter... Oui, le nombre de pommes dans la semence. Donc, vous savez maintenant, c'est les pépins hybrides. Ça, vous mettez dans le micro-ondes, Je pensais entre 2 et 2 minutes et demie, et ça va devenir une pomme. Qui me croit? Parce que j'ai 12 pommes à vendre ici. Non, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le sème, il meurt, et qu'est-ce qu'il va produire? Une pied de pomme. Qu'est-ce qu'il va produire, mes amis? Un quoi? Un pommier! C'est pas compliqué avec moi, vous savez? Mais pourquoi vous voulez être compliqué? Et nous pouvons compter le nombre de pépins dans une pomme, mais vous savez combien de pommes cette pépin peut produire? Est-ce que quelqu'un a déjà eu un pommier chez eux? Qui a eu des pommiers? Oh, c'est vrai, vous n'avez pas eu des pommiers. Ah, mais nous avons eu des pommiers. Et je vous promets, il y a des années où on n'a pas grand-chose et il y a des années où vous n'avez pas assez de voisins. Mais vous ne savez pas quoi faire. Vous faites compote, vous faites tous les tartes et les choses. Et ça vient, et ça vient. Et c'est pas quelques pommes qu'on peut compter, c'est des kilos. Et des kilos de pommes. Ça veut dire qu'on a, j'ai 12 pépins là qui ont l'air pas grand-chose là, n'est-ce pas? Il n'est pas très puissant là. Qu'est-ce que vous dites? Il est petit. Et ça, c'est pas mal comme pépin. Il y a des semailles bien plus petites que ça. Il a l'air de rien du tout. Mais vous savez, vous mettez ça en terre. Et il a quelque chose. Il est propre de la semence. C'est qu'il a la vie en lui. Et lui, il peut prendre une pommier, il peut produire un pommier qui peut nourrir des familles que les, qui vend des pommes? Le primeur, il peut faire des affaires avec ce que cette petite semence peut produire, n'est-ce pas? Des kilos et des kilos de pommes. Oui, mais vous savez une chose? Je le mets là. Et vous savez ce qu'il va faire? Absolument rien. Ils vont être perdus dans la lessive. Mais j'ai essayé. J'ai mis une semence de tomate dans une petite Ziploc, petite sac de Ziploc, et j'ai gardé ça pendant 20 ans. Vous savez, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Ils ont trouvé des semailles dans les pyramides qui croient avaient 4000 ans ou plus, et ils ont semé, et ces semailles avaient le culot. On a le droit de dire ça? Culot, oui. J'ai appris comment dire déranger maintenant. Hein? Dis-moi encore, c'est perturbé. Je travaille ce mot toute la semaine, c'est bien, n'est-ce pas? Je vous dis, on est toujours en train d'apprendre. Ils ont trouvé des semailles. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est parti. Ouais. Ils ont trouvé des semailles dans les pyramides, ils les ont semées et ces semailles ont poussé après 4000 ans. Il y a des promesses encore cachées dans ce sac de semences. La Bible, c'est un sac de semences, des promesses de Dieu qui peut changer des nations. Pas changer seulement ta vie, ta famille, ta ville, ton entreprise, là où tu travailles, ça peut changer des nations. Mais il faut que ces semences soient semées. J'espère que ça va rester avec vous. C'est pourquoi je l'ai fait. Oui? Maintenant j'ai faim, j'avais pas faim avant, mais c'est bon. Et chaque... Oui, il y a la banane. Qui veut la banane? Tu veux la banane? Il est là, d'accord? Lisons un instant Marc 4. Je vous encourage à reprendre ce chapitre. On va pas prendre le temps maintenant pour tout lire, mais je veux que vous sachiez, il y a une loi. Et cette loi, si vous voulez l'ignorer, vous voulez dire que ça ne marche pas, ou peu importe ce que vous dites, cette loi est vraie. Ce qui sera triste, c'est quand nous arrivons au ciel et Dieu dit, pourquoi n'avez-vous pas semé? Parce qu'on peut se plaindre de beaucoup de choses. Mais une chose que je sais, si Dieu me donne un terrain et que je ne sème rien dans ce terrain, je n'aurai que les mauvaises herbes, oui, ou un terrain vide. Mais si je sème sur ce terrain, oui, j'aurai une récolte. Marc 4, 3 dit, un semeur sorti pour semer. Allô? Est-ce qu'il y a des semeurs ici? Alors moi, je veux vraiment vous lancer un défi. Oui, de devenir un semeur de la parole de Dieu dans votre vie, dans la vie des autres, mais un semeur dans beaucoup, beaucoup de domaines. J'entends les gens dire les bêtises comme « j'ai pas d'amis ». Vous les bananes, qu'est-ce qu'il faut semer? Des pépins d'orange. Vous voulez du blé? Qu'est-ce qu'il faut semer? Mais il faut trouver une grappe de vigne. Non! Je veux des amis, qu'est-ce qu'il faut semer? L'amitié. Ce n'est pas compliqué, les amis. Heureusement, Dieu est un grand cerveau. Il est l'être le plus intelligent dans l'univers. Ouais. Mais il a fait les choses pour que vous et moi, qui avons un petit cerveau en comparaison, puissent comprendre, saisir et vivre ces choses. Ouais. Marc 4, 8 et 9. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dis la bonne terre. Moi, je crois que votre cœur, votre vie est la bonne terre. Et il dit, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. C'est la loi de la semaille ou de semences et de moissons. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, il faut entendre ça, les amis. Si les choses ne marchent pas dans le domaine, vous avez besoin de dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin de semer? Comment est-ce que je peux changer les choses? Il faut que je sème quelque chose. Chaque fois qu'il y a un problème, une difficulté, un obstacle qui vous empêche d'entrer là où Dieu vous a dit d'aller, il faut que vous dites, quelle est la semence? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou qu'est-ce que je ne suis pas encore en train de faire? Et que nous semons quelque chose. Nous sommes en train de parler de comment entrer dans les bénédictions de Dieu, arrêtant cet esprit de mendiant. On voit ça où dans la parole de Dieu? Jésus n'est pas venu pour prendre quelque chose. Jésus est venu pour donner quelque chose. Oui, quelqu'un voulait inviter Laura pour aller prêcher en France. Et donc on s'est entendu et la personne dit, ah mais quelles sont vos conditions financières? Il dit, on n'a pas parlé des conditions financières parce qu'il n'y en a pas. Je suis désolé, mais nous sommes jamais allés quelque part parce que quelqu'un nous a offert quelque chose. Sauf l'opportunité de porter la parole de Dieu. Amen. Moi, je dis, on paiera l'avion, on paiera tout si nécessaire. S'il ne peut pas nous mettre chez quelqu'un ou à l'hôtel, nous payons l'hôtel. Ça, ce n'est pas un problème parce que nous partons toujours pour donner. Et vous savez, à cause de ça, nous sommes toujours bénis. Et j'ai dit, et si vous voulez recevoir un offrande pour elle, elle le recevrait. Pas de problème. Mais souvent, vous savez, nous allons et on réalise que les gens nous reçoivent un offrande et ils ne peuvent pas. Vous savez ce qu'on fait? On a tout, c'est ça, je ne sais pas combien de fois, nous donnons toute l'offrande. Pourquoi? Parce que nous avons appris que si vous êtes là, toujours avec la main tendue pour prendre quelque chose, vous aurez peu de choses. Mais si vous êtes toujours là en train de... Qui veut une banane? Tu as déjà eu la pomme, non? Il n'y a personne d'autre? Emmanuel, voilà, c'est pour toi. Voilà, et c'est bon, parce que j'ai mangé son frère ce matin. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Ok, encore quelque chose, je pense que vous êtes en train de saisir cela, et c'est pourquoi je le travaille un petit peu. Mais il faut comprendre, les amis, parce qu'il y a des gens qui prennent quelque chose et ils poussent ça à une limite, et il y a des gens qui croient que nous puissions avoir les bénédictions de Dieu sans travailler, sans mettre de l'effort. Vous savez, si vous n'avez pas fait, va voir quelqu'un, ou va propose-toi à quelqu'un qui a un jardin, ou qui travaille dans une ferme, va te proposer, passer une journée avec eux. Oui, dans le jardin, à la ferme. Et vous allez voir que si tu veux la récolte, il faut travailler. Oui, il n'y aura jamais une récolte. Il y a des gens, il y a des promesses erronées de la prospérité, la bénédiction et tout ça, comme si on n'a besoin de rien faire. Et nous avons une société aujourd'hui qui sent là. Je veux quelque chose. Non, je ne veux pas travailler, mais donne-moi. Et c'est mon droit. Quel droit? Nous avons le droit et le privilège de pouvoir travailler. Je vous donne deux versets, je pense très importants. Éphésiens 4, 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Est-ce que nous sommes d'accord? Il est en train de parler des principes chrétiens. Vous êtes devenu chrétien, vous étiez voleur avant, vous ne volez plus. Amen? Ok? Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir, pourquoi? Pour payer ses factures. C'est ce qui est marqué dans votre Bible? Dans la mienne, il dit pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Nous avons toujours cru qu'on travaille pour pouvoir payer nos dettes, payer notre style de vie. Non, Dieu veut qu'on travaille pour qu'on puisse donner pour bénir les autres. Ça, c'est une nouvelle pensée, n'est-ce pas? Proverbe 12, 27, ça, c'est un verset que j'aime. Proverbe 12, 27 dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Qui aime le gibier? Ok, oui, moi aussi, j'aime beaucoup le gibier. Ouais. Je passe, oui. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Vous voulez voir un homme déprimé? Oui. Trouve un homme qui n'a pas de travail, qui n'a pas besoin de se lever le matin pour aller au travail. Moi, je dis toujours aux gens qui disent, moi, je veux un travail, mais il n'y a pas de travail. Je dis, mais lève-toi chaque matin, rase-toi, douche-toi, brosse tes dents et pars faire quelque chose. Et les gens disent, mais il n'y a pas de travail. Oui, il n'y a pas de travail pour celui qui reste toute la nuit en train de regarder la télé, en train de jouer aux cartes, oui, en train de rester au bistrot, en train de picoler, c'est le mot, hein? Oui, il n'y a pas de travail. Mais pour celui qui veut du travail, si tu te lèves, moi j'ai fait ça. Face à tous les obstacles que j'avais d'être un immigré, oui, et que personne ne voulait savoir de quoi sur moi, oui, oui, je parle aux États-Unis, pas ici, d'accord? Oui, oui. Moi, j'ai dit tous les matins, merci Seigneur pour mon travail. Je te loue pour mon travail. Et chaque matin, je me levais et je me rasais et je me douchais et j'étais propre et je me suis présenté et je ne sais pas combien de portes étaient fermées sur mon visage. Mais j'ai continué à louer le Seigneur jusqu'à ce que quelqu'un m'a offert un travail que je ne voulais pas faire avec des heures qui étaient insuffisantes pour payer nos factures. Mais je dis, je commence là où Dieu m'ouvre une porte. Amen. Et Dieu a fait de cette porte une immense porte pour nous. Amen. Tant qu'il voulait nous garder, il ne voulait pas qu'on quitte les États-Unis, il m'a fait des offres. Je vous raconte, vous dites, pourquoi vous êtes venu en France? Parce que Dieu nous a donné un appel. Amen. Je sais de quoi je parle. Marc 11, 25, encore, je pense que ça va être notre dernier verset. J'ai toujours fait attention quand je dis cela. Marc 11, 25 dit, l'homme bienfaisant sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je ne sais pas si c'est très clair, donc j'ai regardé une autre version dans le Semeur. Il dit, c'est vrai? Oh, Proverbe 11, 25, là c'est marqué, donc excusez-moi. En cas que je fais une erreur, vous regardez l'écran, d'accord? Proverbe 11, 25, l'homme bienfaisant sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc je ne sais pas si c'est très clair. Donc moi, j'ai regardé une autre version, le Semeur, et il dit, celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres, sera lui-même désaltéré. J'aime beaucoup parce qu'il parle de généreux et abondance. Et peut-être il dit, oh, ça c'est loin, comment est-ce que je peux arriver là? Il dit, mais commence à donner à boire à quelqu'un. Amen. Peut-être tu dis, mais moi, j'ai pas grand-chose. Oui. Moi, j'ai entendu. Moi, j'ai lu de l'église traditionnelle qui disent, si vous n'avez pas grand-chose, il ne faut pas donner. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Amen. Je pense que nous avons toujours tous quelque chose à donner et nous devons développer cet esprit de générosité. Amen. Développer un esprit de générosité. Non pas, qu'est-ce que vous avez pour moi, mais qu'est-ce que j'ai pour vous. Peut-être c'est un sourire. Peut-être c'est une parole d'encouragement. Peut-être c'est une amitié fidèle. Amen. Peut-être c'est une petite offrande parce que je n'ai pas encore une grande offrande, mais je commencerai là où je suis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus s'est mis devant les troncs. Alors, vous pouvez marquer la référence, c'est Luc 21, 1 à 4. Et il y a une veuve qui a mis son dernier sou. Et vous savez ce qui est très intéressant de cette histoire, Jésus n'a pas dit, ne le mets pas. Pourquoi? Parce qu'il savait, en donnant, Dieu pouvait bénir cette femme. Et une autre histoire dans l'Ancien Testament, c'est 2 Rois 4. Oui, il y a une veuve, oui, que son mari est mort et lui a laissé des dettes. Vous savez, mes amis, il faut qu'on décide maintenant de garder toutes nos choses en ordre. Quand je pars d'ici, je vous promets, si je pars avant Laura, il n'y aura aucune dette pour elle de payer. Amen. Et nous devons décider maintenant de finir notre vie dans l'abondance, d'être une bénédiction. La Bible dit qu'un homme de bien est une bénédiction pour les enfants de ses enfants. Donc, nous n'avons pas encore des petits-enfants, mais je pense à eux déjà. Oui? Quand nous voulons laisser une bénédiction pour eux, et vous savez ce que j'ai appris? Si vous vous endettez selon le système de ce monde, et vous avez toujours besoin d'acheter la plus nouvelle chose, tu vois, tu as toujours besoin pour montrer aux voisins quand vous êtes béni, vous n'êtes pas béni de tout. Être criblé par les dettes, ce n'est pas une bénédiction. Nous devons apprendre à vivre par la foi. Et je crois que la foi croit pour l'argent avant de le dépenser, pas après. Ça, c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Nous avons vu des gens dans la même situation que nous qui avaient un appel dans leur vie pour être missionnaires, mais ils n'ont jamais quitté leur terre maternelle. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait un problème, ils achetaient une nouvelle voiture, une nouvelle chaussure, une nouvelle ça, et ils étaient criblés de dettes. Et nous allons dire, on passera à côté. C'est pas grave si on garde notre voiture 3 ans de plus, 4 ans de plus. Oui, notre dernière voiture, on avait pendant 13 ans cette voiture, on a depuis 12 ans. Pas de problème. Je le garde en très bon état. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai des gens précieux comme cargaison dans ma voiture. Oui, oui. Je fais tous les services d'entretien. Je change les pneus. Tout est et bon, ça marche. Si ça ne marchait pas, j'achèterais nouveau. D'accord? Mais je ne m'endette pas. Cette femme, son mari meurt, elle est endettée et on va venir vendre ses fils pour payer la dette. Et elle va au prophète et elle dit, je n'ai rien. Et le prophète dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Mais quelle honte. Ça, c'est les pasteurs d'aujourd'hui. Tu vois, il veut prendre quelque... Non, non, non. Il ne voulait rien pour lui. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, j'ai un peu d'huile. Et il dit, va chercher. Va chez les voisins. Tu cherches les ustensiles et tu remplis. Et vous savez, l'huile a continué à couler jusqu'à qu'elle ait rempli le dernier ustensile. Elle dit, tu vas vendre cela. Tu payes ta dette et tu vis sur le reste. Il n'a pas dit, oh, c'est dommage, tu n'as rien. Il dit, qu'est-ce que tu as? Et nous avons besoin de dire, Seigneur, tu m'as donné les choses pour que je puisse semer, pour que je puisse vivre dans la bénédiction de Dieu. Amen. Ok, donc j'ai ajouté quelque chose. On a fait une liste tout à l'heure. 3 choses à savoir, j'ai 4 choses maintenant. Première chose, c'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Oui, mais ça ne reste pas chez vous. Deuxième chose, il faut savoir comment recevoir ces bénédictions. On a dit attitude et obéissance. Troisième chose, il faut partager les bénédictions si nous voulons davantage. Amen. Quatrième chose, si vous semez continuellement, vous aurez toujours des moissons. Amen. Vous semez une chose et ça prend 1 an pour la récolte. Vous n'aurez rien pendant 1 an. Mais si chaque jour vous dites, Seigneur, donne-moi, montre-moi ce que je peux semer, et vous commencez à semer. Écoute, les amis, je ne sais pas, mais je vais être très basique ici. Bon, vous l'avez déjà entendu pendant les dîmes et les offrandes. Mais si vous avez besoin d'argent, il faut semer de l'argent. Allô? Mais je savais, il veut notre argent. Non, c'est pourquoi nous n'avons pas une offrande. Écoutez-moi, je ne reçois jamais une offrande, oui, après avoir prêché sur l'argent ou sur la bénédiction, parce que je trouve que c'est pas correct cela. Moi, j'ai vu des gens faire ça, faire toute une prédication, dire maintenant on va recevoir de l'argent d'offrande pour moi. Bon, déjà, je ne reçois jamais des offrandes pour moi. Oui? D'accord? Mais si vous avez besoin davantage d'argent, semez de l'argent. Si vous dites, ah, je ne suis pas sûr, va dans notre église et semez dans notre église. Moi, je n'ai aucun problème cela. C'est une de nos prières en tant qu'équipe pastorale. Dit, si les gens quittent notre église pour aller dans notre église, on croit, on espère qu'ils ont appris une chose. C'est qu'ils ont appris de donner leur dîme et que quand ils arrivent dans cette église, leur dîme est une bénédiction pour cette église. On espère qu'ils ont appris d'autres choses aussi. Mais que c'est triste quand les gens vont d'église en église et ils ne donnent jamais rien. Oui, c'est comme aller au restaurant et jamais payer. Vous savez, vos amis vont avoir l'as de vous après un moment. Si chaque fois que vous allez à McDo ou ailleurs, oui, je vous montrerai quelques bons restaurants si vous voulez, parce que McDo, ce n'est pas le meilleur. Désolé les jeunes. Oui. C'est sûr. Oui. Mais si vous laissez toujours les autres payer, après un moment, vous allez être noté. Et dit cette personne, non, 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 il faut qu'on fait notre part. Oui. Nous nous permettons les gens de nous inviter, mais on dit toujours, la prochaine fois, c'est notre tour. Amen. Et normalement, ça commence avec notre tour. Je n'attends pas que les gens payent pour moi. D'accord? C'est très pratique ce que je dis aujourd'hui, j'espère. Donc, nous avons dit, il faut partager avec nous. Avons, si vous semez continuellement, vous aurez des moissons, toujours. Amen? Hallelujah. Je vous demande de vous lever. On va faire une déclaration. Je ne sais pas qui vous êtes. Certains de vous, c'est la première fois que vous êtes ici. Je ne connais pas l'état de votre cœur. Mais vous savez, après tout ce qu'on a dit, et je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu que vous entrez dans ces bénédictions, mais la bénédiction de Dieu commence quand on fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont d'accord? Si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, vous n'êtes pas dans la bénédiction. Mais si vous voulez, vous pouvez faire aujourd'hui de Jésus le Seigneur et Sauveur de votre vie. J'ai mis une petite déclaration ici qu'on peut faire. Paul a dit, en Romains 19, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça semble simple, mais c'est seulement parce que Jésus a fait ce qui était compliqué. C'est lui qui s'est permis d'être pendu sur une croix pour que nous puissions recevoir tout simplement le salut. Donc si vous voulez lire, on va déclarer cela ensemble. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, vous savez, vous avez la même joie que moi de le dire. Amen. Hallelujah. Donc vous pouvez lire après, on va déclarer ensemble. Merci Seigneur. Hallelujah. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je crois et je suis sauvé. Je crois et je suis sauvé. Et dis ceci avec moi, je suis la prunelle de ses yeux. Hallelujah. Donc si vous avez fait cette prière, j'aimerais prier avec vous. On va avoir quelques personnes de l'équipe pastorale qui vont venir. Hallelujah.